Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas, certes à la tradition, en vous rappelant ou en vous apprenant que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent depuis quelque part du 19e siècle. Oui, il me semble que c'était le 19e siècle. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons consacrer notre émission à une des actrices les plus glamour du moment, qui est... a déjà une longue carrière derrière elle, mais nous espérons qu'elle sera encore fructueuse. La dénommée Julianne Moore, de son vrai nom, Julie Anne Smith, née quelque part au début des années 60, on ne donne pas l'âge des dames. Sa maman est écossaise, son papa est américain et militaire. Ça arrive souvent, il y a quand même beaucoup d'Américains qui sont militaires. En tout cas, ça explique que son parcours de vie, vraiment sa jeunesse, est des plus percutés, si je puis dire, puisqu'elle changera presque 25 fois de résidence entre les États-Unis, l'Allemagne, etc. Et autres beaux pays où la présence militaire américaine est, comment dire, importante. Elle commence à Hollywood dans les années 80, de façon un peu difficile, comme le plus souvent pour de jeunes acteurs et de jeunes actrices, d'ailleurs sous son vrai nom, de Julie Anne Smith, dans quelques soap opéras où, ma foi, elle se fait sinon un nom, du moins une expérience. Et c'est à la fin des années 80 qu'elle change de nom, puisqu'en fait, il y a déjà une actrice qui s'appelle Julie Smith, et que donc, si elle veut pouvoir percer, eh bien, il faut qu'elle change de nom, elle devient Julianne, et elle devient Julianne Moore. Ma foi, c'est sans doute une bonne idée, puisque à la fin des années 80, elle fait ses premières apparitions marquantes au cinéma. On la verra notamment dans Dark Side, Les Contes de la Nuit Noire, un petit film d'horreur plutôt bienvenu. Et puis surtout, on la verra dans un film qui, ces années-là, a eu beaucoup de succès, La Main sur le Berceau, un film de Curtis Hanson, où on voyait Rebecca De Mornay en femme diabolique à laquelle était opposée Julianne Moore, suivent d'autres petits rôles, mais où elle est marquante, notamment dans Le Fugitif, aux côtés d'Harrison Ford en 1993, un film d'Andrew Davis, et puis, je l'avoue, un film qui m'a beaucoup marqué, notamment par la présence de Julianne Moore, un film de Robert Altman intitulé Shortcuts, toujours en 1993, qui était une sorte de patchwork, d'histoire entrecroisée d'Américains dans un quartier un peu cossu. Et l'on voyait à plusieurs reprises, il faut bien le dire, notre Julianne nue et de face. Et ma foi, c'était un spectacle dans les années 90, ce qui valait quand même son pesant d'or, même si le film avait d'autres qualités. On va écouter un petit extrait d'une bande originale d'un des films qui va contribuer à faire passer Julianne Moore, eh bien, du statut de bonne actrice à celui de star. Un film de Chris Columbus intitulé « Neuf mois aussi », qui était un remake d'un film français intitulé « Neuf mois », dont les acteurs et actrices, je l'avoue, m'échappent. Et les Américains ont souvent l'habitude de refaire, je dirais, des remakes de films de toutes origines, et notamment français. En l'espèce, c'était le cas. Ce film raconte l'histoire d'une grossesse. Je pense que le titre l'aura déjà explicité. Il y avait Julianne Moore, il y avait aussi Hugh Grant. Le tout était de Chris Columbus, et on en écoute un petit extrait dans 24 notes secondes. aussi stupéfiant que cela puisse paraître, cette musique est signée de Hans Zimmer, qu'on n'avait pas toujours connu dans des registres aussi romantiques. Un extrait de la bande originale de 9 mois aussi, un film de Chris Columbus qui mettait en vedette Hugo Grant et Julianne Moore, cette dernière étant notre héroïne du jour. Comme le film suivant, eh bien, il est lui aussi daté de ces mêmes années. On va en écouter un extrait, alors j'allais dire sans plus attendre, avec évidemment quelques petits mots de présentation. En fait, ce film, il s'appelle Le Monde Perdu, mais il est plus connu sous le titre de Jurassic Park 2, puisque c'est bien évidemment la suite de Jurassic Park, qui avait connu quelques années auparavant un succès si phénoménal qu'on ne pouvait pas envisager même qu'il n'y ait pas de suite. Mais par contre, on n'était pas forcément envisageable que ce soit Steven Spielberg lui-même qui s'y attelle. Ma foi, il le fit. Le film fut une moindre réussite, peut-être parce que les spectateurs étaient désormais habitués au fait de voir de magnifiques effets numériques de dinosaures. Jurassic Park avait en l'espèce été une innovation majeure. C'est le premier film dans lequel on voyait des effets numériques de façon aussi importante et de façon aussi crédible. Du coup, eh bien, on retrouvait un peu la même sauce de dinosaures sous contrôle qui finissent par s'échapper. En l'espèce, ils s'échappent dans une petite ville américaine, ce qui nous vaut évidemment quelques scènes assez réjouissantes de cohabitation entre des dinosaures et des stations-service. Bref, l'ancien et le moderne. Sachant qu'on ne sait plus trop avec les stations-service où est l'ancien et où est le moderne. La musique de ce film, elle était bien évidemment signée de John Williams, qui est le compositeur attitré de Steven Spielberg, même par-delà les années. Et on va donc en écouter un large extrait, un extrait donc du Monde Perdu, The Lost World in English, dans 24 notes secondes.
Thank you.
la patte musicale aisément, trop aisément peut-être, reconnaissable de John Williams pour un extrait du Monde perdu, un film de Steven Spielberg tourné en 1997, évidemment. Une adaptation d'un roman de Michael Crichton avec des dinosaures échappés dans la grande ville américaine. On ne sait pas qui devait avoir le plus peur. Est-ce que c'est les dinosaures ou est-ce que c'est les Américains obèses dans leurs petites chaises roulantes? On ne sait pas trop. En tout cas, c'était l'occasion pour Julianne Moore de s'affirmer dans une super production. Et dans les années qui suivirent, cette année 1997, eh bien, la belle va alterner avec beaucoup d'intelligence et parfois en prenant des risques, des gros films un peu sûrs, question budget et intérêt, et puis des films peut-être plus intimistes, plus difficiles, plus expérimentaux, parmi lesquels on pourra citer un film intitulé Safe de Todd Haynes, dans lequel on la voyait en femme au foyer de la middle class, atteinte d'une maladie incurable, un film dans lequel elle était pour la première fois en tête d'affiche toute seule et non pas comme second rôle dans une super production. En 1997, on la verra aussi dans un film du génie Paul Thomas Anderson intitulé Boogie Nights, un film choral un peu comme Shortcuts évoqué tout à l'heure, un film qui lui permettra d'obtenir sa première nomination à l'Oscar dans la catégorie du meilleur second rôle féminin. Et puis, eh bien, elle continuera à enchaîner un autre film de Paul Thomas Anderson intitulé Magnolia, lui aussi très ambitieux, on y voyait même Tom Cruise, et des films plus classiques comme par exemple La fin d'une liaison, une sorte de mélodrame anglais un peu sirupeux. Aux côtés de Julianne Moore, il y avait le Britannique Ralph Fiennes, peut-être plus connu pour sa participation à la série Harry Potter, et qui lui valut là encore une nomination à la meilleure actrice. Et enfin, et après on écoutera un autre morceau musical, un ou deux ans plus tard, je ne sais plus trop, eh bien elle reprendra le rôle interprété de façon ô combien magistrale par Jodie Foster dans Le Silence des Agneaux, le rôle de Clarice Starling pour la suite du Silence des Agneaux. C'est comme Jurassic Park, quand ça marche, évidemment, il faut une suite. La suite, en l'espèce, elle s'appelait Hannibal, du nom du protagoniste, va-t-on dire. Et puis, elle était réalisée par le vieux routier Ridley Scott, ma foi. Ce n'était pas très, très bienvenu, mais c'était pour l'occasion, pour Julianne Moore, de devenir vraiment, vraiment une star. On va revenir un tout petit peu en arrière parce qu'il n'était pas question dans une émission comme 24 notes secondes de ne pas s'offrir un petit plaisir en écoutant un extrait qui lui-même est culte d'une bande originale qui elle-même est culte d'un film qu'il est aussi, vous l'auriez deviné, en l'espèce The Big Lebowski de Joel et Ethan Coen, un film sorti quelque part dans les années 98, voilà, c'est ça, quelque part dans les années 98, avec évidemment Jeff Bridges dans le rôle principal, celui du dude, l'homme que l'on voudrait tous être, calme, pondéré, que rien n'atteint, ni les pistes cyclables, ni les voitures qui vont trop vite, ni d'autres événements que je ne pourrais même pas évoquer. Et aux côtés du dude, eh bien, il y avait entre autres, il y avait plein d'autres personnages, mais Julianne Moore qui faisait une sorte de femme fatale, parodique, tout à fait bienvenue. Du coup, comment s'en passer des petits plaisirs comme ça? On n'en a pas tous les jours. On va écouter un extrait, et je vous laisse la surprise de l'extrait, de The Big Lebowski, dans 24 secondes.
Thank you.
je repose mon martini dry, je me reprends un shifter. Oui, je sais, le shifter, c'est la faute de goût, mais bon, on a les tentations qu'on peut. Un extrait de la bande originale de The Big Lebowski, signé d'Henry Mancini, un compositeur qui est aussi celui de notre générique de 24 notes secondes. Alors, c'est pas une musique de film, c'est une musique d'Henry Mancini. Et, enfin, c'est devenu une musique de film grâce à The Big Lebowski. Bref, un petit moment. J'adore le bruit du serpent à sonnette qui fait un clic toujours derrière. C'est vraiment de petits bijoux, juste quelques percussions, une ligne mélodique. Et puis, ma foi, tout cela apaise. Et effectivement, c'est la musique du Dude. Et ça ne peut mieux lui correspondre. Un extrait donc de la bande originale du Big Lebowski dans lequel on voyait Julianne Moore qui, décidément, vous me pardonnerez cette expression un peu légère, est toujours dans les bons coups. Et dans les années qui suivirent, eh bien, elle le fut encore, puisqu'on l'a vu, on l'a vu notamment, pardonnez-moi, en 2002, alors dans une grosse production, The Hours, de Stephen Daldry, un film ambitieux, très complexe, qui mêlait la vie de Virginia Woolf, en l'espèce interprétée par Nicole Kidman, qui avait donc un faux nez, puisque Virginia Woolf avait un visage très particulier et très différent, à vrai dire, de celui de Nicole Kidman. Il y avait aussi Meryl Streep et il y avait Julianne Moore, mais les paradoxes venaient que les trois actrices jouaient dans trois espaces temporels différents et en fait ne se rencontraient jamais. Le film était une sorte d'entrelacement de leurs trois destins, puisque Julianne Moore lisait l'un des principaux livres de Virginia Woolf, qui s'appelle Mrs. Dalloway, un petit chef-d'œuvre que je vous recommande. Et puis Meryl Streep avait aussi un rôle dans l'histoire. Je vous passe des détails, je vous laisse plutôt aller voir le film, qui était donc l'occasion pour Julianne Moore eh bien, de côtoyer, sans les côtoyer, deux des plus grandes stars d'Hollywood dans ces années-là. Ensuite, et on va y revenir, elle tourna dans un film qui lui valut sa deuxième nomination à l'Oscar, cette fois non pas de la meilleure second rôle, mais de la meilleure actrice. Et puis, dans les années qui suivirent, on la vit dans des films, on va dire, so-so, plutôt oubliés, notamment le calamiteux Mémoire effacée de Joseph Ruben, qui, ma foi, mérite bien son titre, puisqu'il est complètement effacé de la mémoire des cinéphiles. Mais on va plutôt écouter un extrait du film que je viens d'évoquer à propos de sa nomination à l'Oscar, un film de Todd Haynes. Si vous avez suivi, vous vous souviendrez que dans ses débuts, Julianne Moore avait tourné avec Todd Haynes un film intitulé Safe. Cette fois, dans Loin du paradis, eh bien, on retrouve un peu la même histoire d'une femme de la middle class, un peu délaissée, mais qui va commettre quelque chose qui, dans les années 50 et dans le Connecticut où le film se passe, était inimaginable et évidemment scandaleux. Elle va avoir une liaison avec un homme de couleur, comme on disait à l'époque, et il va en résulter eh bien, une sorte de mélodrame flamboyant que Todd Haynes aura traité à la manière de Douglas Sirk, un grand réalisateur des années 60 qui notamment mis en scène Rock Hudson dans des mélodrames flamboyants comme on n'oserait plus en tourner, mais comme on en voit maintenant tous les soirs en prime time sur TF1, sur France 2 et sur F3. Mais enfin, ça ne ressemble plus beaucoup à Douglas Sirk, hélas. Et en tout cas, ça n'en a ni l'ambition, ni la qualité stylistique. Todd Haynes, avec plus ou moins de réussite, à mon avis, s'était essayé justement à restituer ce style, mais du coup, le film tournait un peu à l'exercice de style. C'était aussi la même chose pour la musique, qui était signée du grand Elmer Bernstein, qui lui-même avait composé quelques mélodrames fameux dans les années 60. On va en écouter un extrait. Le film, s'appelle en anglais « Far from Even ». Eh bien, en français, c'est pareil, dis donc. Il s'appelle « Loin du paradis » dans 24 notes secondes.
Thank you.
Un extrait de la partition filmée Elmer Bernstein pour Loin du paradis, un film de Todd Haynes sorti en 2002 et qui évoquait donc qu'il y avait dans le principal rôle Julianne Moore. J'ai été tellement bavard qu'il ne me reste plus de temps pour un nouvel extrait. J'en suis bien désolé, mais je m'en voudrais de ne pas vous dire que Julianne Moore obtint enfin l'Oscar de la meilleure actrice pour un film, ma foi, peu glorieux, il faut bien le dire. Ça s'appelait Still Alice, elle y jouait une femme atteinte de la maladie d'Alzheimer, typiquement le genre de film pour les Oscars. Eh bien, ça a marché pour Julianne Moore, ça continue à marcher maintenant, elle continue à tourner et à alterner les gros films et les petits, comme disait la maman de Bonaparte, pourvu que ça dure. Allez, 24 notes secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.